Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Pour la troisième fois au micro de Canal Académie, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Stéphane Courtois. Stéphane Courtois a en effet répondu à mes questions à l'occasion de deux précédentes émissions. La première était consacrée à l'apogée des régimes totalitaires entre 1935 et 1953. La deuxième était, elle, consacrée à l'héritage du totalitarisme en Europe entre 1954 et 2005. Les fidèles de notre émission savent que ces deux enregistrements disponibles dans notre médiathèque ont eu lieu à l'occasion de la publication aux éditions du Rocher des actes de deux colloques consacrés donc à la chronologie du totalitarisme dans le monde. Pour être complet, mais n'ayons pas de regrets, avant l'apogée et l'héritage des totalitarismes, un premier colloque avait été consacré à ses origines entre 1900 et 1934. Les actes de ce tout premier volet ont été publiés chez l'âge d'homme. Alors, après cette réflexion chronologique en trois temps, origine, apogée, héritage, eh bien, l'historien qui a dirigé le fameux livre noir du communisme nous offre aujourd'hui un dernier volet d'études du totalitarisme intitulé « Les logiques totalitaires en Europe ». Ce volet a aussi fait l'objet d'une publication. Celle-ci vient de paraître aux éditions du Rocher. Alors, l'approche ici, vous l'aurez compris, sort de la chronologie. L'analyse y est thématique. Alors, qu'entend-on par logique totalitaire? Quelles sont les spécificités de ce ou ces totalitarismes? Quels sont les éléments qui les distinguent des régimes libéraux? Quels sont leurs points communs et leurs différences? C'est ce que je vous propose de découvrir avec nous aujourd'hui. Stéphane Courtois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du communisme et en cette qualité directeur de la revue Communisme, spécialiste aussi de la question du totalitarisme. Vous avez dirigé les quatre colloques et les quatre publications que je viens d'évoquer. Alors, Stéphane Courtois, le quatrième volet est clos. C'est un aboutissement ?
Oui, c'est un aboutissement provisoire, comme toujours en histoire, mais c'est quand même un aboutissement. C'est-à-dire qu'après avoir examiné la question, comme vous l'avez rappelé, sous l'angle chronologique, phase par phase, les origines, la naissance, l'apogée, et puis la désintégration progressive et l'héritage éventuel que nous ont laissé ces différents régimes en Europe. J'ai voulu essayer de revenir sur la question, mais sous un autre angle, qui est justement l'angle transversal, l'angle thématique, et d'essayer de repérer certains des éléments fondateurs et fondamentaux du système totalitaire, et en particulier les logiques. Comme n'importe quel grand phénomène historique, il y a là des logiques à l'œuvre. Si ces logiques n'étaient pas à l'œuvre, bien le phénomène n'existerait plus. Et d'ailleurs, on l'a vu, son effondrement tient au fait que certaines de ces logiques ont été abandonnées, par exemple en URSS ou dans les démocraties populaires à un moment donné. Et que, bon, par exemple, le simple fait que la logique de terreur de masse ait été abandonnée à partir de, en tout cas, de 1956, ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas toujours la répression, le KGB, etc. Mais on n'était plus dans la terreur de masse telle qu'elle était pratiquée sous Staline, alors qu'elle était toujours pratiquée en Chine ou sous Pol Pot ou en Corée du Nord. Eh bien, le fait que cette logique de la terreur de masse ait été abandonnée sous Khrouchtchev et que ça se soit maintenu dans toute l'Europe de l'Est, c'est incontestablement un élément qui a fortement affaibli le système, parce que c'était un élément fondamental. Bon, même chose pour la logique du leader charismatique. À partir du moment où Khrouchtchev a attaqué très violemment le culte de la personnalité en la personne de Staline, cet élément du culte du leader charismatique, qui est tellement important dans les régimes totalitaires, l'abandon de cette logique-là, même si elle avait été reprise après, mais plus personne n'y croyait. Quand on faisait le culte de Brejnev, qui pouvait croire à ça? Il fallait qu'il y ait deux gars qui le portent, tellement il était affaibli. Même chose pour ses successeurs, Tchernienko, et puis ensuite Andropov, jusqu'à Gorbatchev. Donc, je ne parle même pas de l'Europe de l'Est, où là, les leaders communistes n'avaient plus aucun charisme et étaient complètement démonétisés. Donc, l'abandon de cette logique-là du leader charismatique a aussi contribué à fortement affaiblir le système. Donc vous le voyez, on est revenu donc sur la question de ces logiques et on en a privilégié certaines des principales, donc la logique idéologique qui est évidemment à l'origine, hein, s'il n'y avait pas des penseurs pour penser un projet totalitaire, ben, eh bien, évidemment il n'y aurait pas de totalitarisme. La logique de la terreur, on en avait déjà parlé quand je suis venu précédemment. La logique de la guerre civile, qui est une chose très importante et qui explique, c'est une des raisons pour lesquelles le totalitarisme est un phénomène tellement opposé à la démocratie, puisque qu'est-ce qu'il y a de pire pour la démocratie que la guerre civile, évidemment, ce sont deux termes tout à fait antinomiques. Et enfin, une logique qu'on a souvent tendance à oublier, et qui est pourtant très importante parce qu'on l'a vu à l'œuvre partout, c'est la logique d'émergence de nouvelles élites. Hein, le totalitarisme envoie des signaux sur le thème nous allons liquider les anciennes élites qui sont en place, que ce soit des élites politiques, culturelles, sociales, etc. Et donc, s'il y a des gens qui sont prêts à nous soutenir pour la liquidation de ces anciennes élites, eh bien, c'est eux qui auront les places. Hein, alors, allons-y, messieurs, à l'assaut. Hein, et ça a été très efficace. Hein, c'est l'autre côté, d'ailleurs, hein, si on veut bien voir ça comme une médaille, c'est le revers de la terreur. La terreur, c'est ce qui liquide les opposants, etc., et ce qui liquide la société civile, ce qui réduit la société à merci. Mais de l'autre côté, il y a les gratifications. Les gratifications, c'est évidemment les nouvelles élites, c'est-à-dire vous aurez votre place dans le parti communiste, ou vous aurez votre place dans le parti nazi, ou dans le parti fasciste. Et à partir de là, vous avez 25 ans, jeune homme, mais une belle carrière vous attend. Mmh. Hein, et on a de brillants exemples. Nikita Khrouchtchev en était un, Heydrich du côté nazi en était un autre, donc... Bon, et ça, c'est souvent une logique qui est oubliée, c'est la logique des gratifications qui est pourtant un puissant moteur.
Alors, je voudrais tout de même revenir sur la notion d'aboutissement dont nous parlions tout à l'heure. Vous le disiez, un historien ne referme jamais ses dossiers, et on sent à la lecture des actes du colloque qu'il y a de nombreuses pistes qui restent ouvertes. Et c'est, j'allais dire, un des grands avantages de votre livre, ce qui en fait sa vie en quelque sorte, c'est que les colloques que vous avez dirigés, c'est que, oui, il y a des certitudes, mais on peut lire des études d'historiens qui, tranquillement, j'allais dire, avec profondeur, voient différentes pistes qui peuvent être exploitées, et il n'y a pas de lancée catégorique, il n'y a pas de lancée de certitude. Il s'agit encore d'étudier ce phénomène.
Oui. Personnellement, je crois qu'on est d'une certaine manière au début de l'étude du phénomène. D'abord parce que c'est incontestablement un phénomène qui a été relativement tabou, en particulier en France, au niveau des études pendant de longues années. Hein. Et puis, étant donné que ce phénomène impliquant la comparaison entre communisme, nazisme et fascisme, il y a toute une partie de l'opinion qui récuse cette comparaison, qui ne l'accepte pas. Bon, ce qu'on peut comprendre, mais ce qu'en tant qu'historien, on ne peut pas accepter. Bon, et donc on poursuit le travail. Mais aussi parce que une part énorme du phénomène totalitaire au XXe siècle, c'est-à-dire le communisme, n'est accessible sur le plan archivistique que depuis finalement peu de temps. Hein, et quand on voit déjà tout le travail qui a été fait, par exemple, sur le nazisme depuis 50 ans, bon, avec des archives, puisque l'essentiel des archives avait été saisi à la sortie de la guerre, et les conflits d'interprétation très importants qui existent encore, même si ça a tendance à se calmer, mais tout de même, on peut imaginer que, concernant le communisme, ne serait-ce que le communisme européen et soviétique, pour soutenir à celui-là, on est au tout début des études. Hein, il va falloir déjà des dizaines d'années pour défricher des dossiers, sans parler des archives qui sont toujours fermées, parce qu'il y a quand même des quantités d'archives qui restent fermées aujourd'hui. Donc il y a un énorme chantier qui est là devant nous. Il y en a pour un demi-siècle. Hein, il faut pas se. Bon, je serai à la retraite bien avant qu'on ait vu le bout du problème. Même si j'ai l'intention d'œuvrer encore quelques années. Bon. Hein, et puis vous l'avez dit, il y a effectivement beaucoup de pistes qui sont ouvertes. Moi, par exemple, je souhaiterais vivement faire un grand colloque sur, par exemple, révolution et guerre civile, pour voir, mais sans retenir seulement le totalitarisme, mais pour remonter beaucoup plus haut et pour voir comment s'articulent ces deux phénomènes, la révolution et la guerre civile, et comment elles sont susceptibles de mener à des dispositifs sinon totalitaire, du moins ce qu'on pourrait qualifier de proto-totalitaire, par exemple à certains moments de la Révolution française. Il y a un autre thème qui est encore plus difficile à explorer, mais qui me paraît absolument fondamental, surtout depuis que j'ai vu quand même beaucoup d'archives à Moscou, c'est la question totalitarisme et psychologie. Je veux dire, bon, il y a incontestablement une relation profonde avec la dimension psychologique, mais comme vous le savez, les historiens, les politologues n'aiment pas du tout aborder la question psychologique, mais il est incontestable, et ça, à mon avis, ça a été aussi très fortement sous-estimé, en particulier dans le cas du communisme, qu'il y a à la base du phénomène totalitaire, précisément la figure du leader charismatique et de sa volonté de puissance. Et ça, c'est très important. Alors, il y a des chercheurs qui ont commencé ce travail, des chercheurs d'Europe de l'Est, comme par hasard, qui connaissant bien le système, se sont intéressés à la chose. Il y a une thèse très intéressante soutenue à Paris par M. Radouklid sur narcissisme et totalitarisme. Bon, oui. Ça, c'est des choses. Mais bon, ça, il faudra que, comme on dit, il faudra que ça mûrisse. Tout à fait mûr pour mes chers collègues.
Mais bon, nous pouvons faire un appel aux étudiants.
Ah ben, alors là, plus qu'un appel, s'il y a des gens qui sont intéressés, moi je suis tout disposé à m'entretenir avec eux de ces questions, etc. Mais, et d'ailleurs, vous l'aurez peut-être repéré dans le chapitre que j'ai fait sur Lénine dans ce volume, Les logiques totalitaires en Europe, j'ai quand même un peu mis l'accent sur cette question, ne serait-ce que dans un ouvrage aussi connu que « Que faire hein, », qui est l'ouvrage de base de tous léninistes, je dirais, hein, le fameux « Que faire » de Lénine, publié en 1902, qui invente en quelque sorte la notion du parti de révolutionnaire professionnel. Quand on lit de près ce « Que faire », on en a retenu, je dirais, qu'une espèce d'idée d'un nouveau dispositif politique de parti de révolutionnaire professionnel, clandestin, etc. Mais quand on regarde bien, Lénine a en fait taillé à sa mesure un dispositif lui permettant d'avoir un pouvoir absolu.
Alors, je ne fais qu'un
aperçu sur la question, mais la question psychologique, à mon avis, est très importante et tout à fait sous-estimée pour l'instant.
Restons, j'allais dire, d'un point de vue général, vous différenciez dans ce livre les logiques totalitaires et les structures totalitaires. Les structures totalitaires, elles sont étudiées par ailleurs.
Alors, c'est un peu une grande question. Les structures totalitaires, elles ont été finalement assez fortement étudiées. C'est surtout les structures totalitaires, d'une certaine manière, qui ont été étudiées jusqu'ici, que ce soit par les grands classiques,
Hannah Arendt,
Friedrich, Brzezinski, etc. Hein, c'est un petit peu la question comment marche la machine. Le totalitarisme, c'est une machine inédite. C'est pas la monarchie, ni constitutionnelle ni absolue. C'est pas la démocratie. Qu'est-ce que c'est? C'est pas non plus la dictature. C'est autre chose. Donc, il y a une machine. Comment elle marche, etc. Les rouages, tout ça. Bon. Et évidemment, c'est très important d'étudier ça. Et ça a été relativement bien étudié d'une certaine manière. Mais là, c'est effectivement, on a abordé un peu une autre question. C'est plutôt les ressorts. Les dynamiques. Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas le comment ça fonctionne, c'est plutôt le pourquoi ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait bouger ces gens-là? Qu'est-ce qui les fait décider de telle et telle action? Quelles sont leurs valeurs? Parce que là aussi, il y a une grande question de méthodologie sur laquelle il y a eu de grandes polémiques, en particulier en Allemagne avec la fameuse querelle des historiens en 1986-87 autour de Ernst Nolte. Mais avec le recul, ça fait déjà 20 ans pratiquement que cette querelle a eu lieu. Après les correspondances et donc le débat par correspondance entre Furet et Nolte, qui a suivi la publication du livre de Furet « Le passé d'une illusion » en 1995, personnellement, je pense que Nolte a raison d'avoir souligné qu'on ne peut pas interpréter ces régimes totalitaires, que ce soit le fascisme ou le communisme, etc., comme des systèmes irrationnels. Ce sont des systèmes rationnels comme n'importe quel système, et les acteurs de ces systèmes sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils mettent en adéquation certains moyens avec certains objectifs, et certains moyens avec certaines valeurs, qui sont leurs valeurs. Alors, on peut bien entendu considérer que ces valeurs ne sont pas les nôtres, que d'un point de vue moral, par exemple, nous les récusons absolument. Très bien, ok. Mais si on veut véritablement comprendre qu'est-ce que ça a été, pourquoi ça a existé, alors il faut arriver à comprendre les valeurs de ces gens-là, les logiques qui sont les leurs. Sinon, on passe à côté. Et on fait une espèce de démonisation qui, finalement, ne présente que peu d'intérêt parce que ça ne permet pas de comprendre les ressorts profonds.
Alors, peut-on dire que la première logique totalitaire apparaît sous la Révolution française? C'est ce que je vous propose de voir, Stéphane Courtois, après une première pause.
c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture ou encore les ouvrages primés par les académies. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Stéphane Courtois qui a dirigé les actes du colloque Les Logiques Totalitaires, les actes et bien évidemment le colloque, Les Logiques Totalitaires en Europe. Alors, nous essayons de comprendre le pourquoi ça fonctionne. Ce sont les mots que vous avez utilisés tout à l'heure. Avant de nous quitter, je vous posais la question suivante. Peut-on dire que la première logique totalitaire apparaît sous la Révolution française ?
Oui, il n'y a pas de doute qu'il y a des éléments de ces logiques totalitaires qui apparaissent sous la Révolution française. Il y a d'abord la première logique qui est la logique révolutionnaire. Ça a l'air bête, mais après tout, il n'y a pas de régime totalitaire, il n'y a pas de mouvement totalitaire sans passion révolutionnaire. Hein, bon, c'est une grande question. Alors, la révolution peut être, on en a connu, une révolution peut être de caractère démocratique, mais elle peut aussi être de caractère totalitaire. Hein, y compris, on pourrait imaginer qu'elle soit de caractère conservateur, mais là, c'est plus délicat à montrer. Hein. Donc, c'est d'abord la passion révolutionnaire, ça c'est très important, et la Révolution française a été évidemment le grand modèle pour tout le monde.
Qui est une passion égalitaire.
Alors, c'est la passion égalitaire, bien entendu, la sainte égalité, comme disait Babeuf, et surtout, la passion d'une égalité réelle. Non pas de l'égalité en droit, telle qu'elle est définie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais de l'égalité réelle, de l'égalité en fait. Hein, et d'ailleurs, il faut se souvenir que, par exemple, le 18 janvier 1918, quand s'est réunie pour la première et la dernière fois l'Assemblée constituante élue au suffrage universel en Russie révolutionnaire en 1917, assemblée dispersée quelques heures plus tard par la force par Lénine, eh bien, Lénine a immédiatement proposé à l'Assemblée de voter un texte qui n'était pas une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais une déclaration des droits du peuple travailleur. Ça, c'est encore autre chose. Qui définit le peuple travailleur? Comment se définit le peuple travailleur? Et les gens qui ne sont pas du peuple travailleur, ont-ils des droits, etc., etc. Nous voilà déjà en plein totalitarisme, c'est-à-dire dans ce processus qui consiste à exclure de l'humanité une partie des populations. Donc, la logique révolutionnaire, très importante, et la Révolution française a été un modèle tout à fait extraordinaire, à commencer par les Russes, évidemment. Mais il y a d'autres éléments importants. La terreur. La terreur, non pas comme phénomène de foule spontanée qui intervient au cours des émeutes, etc., bon, comme on va le voir pendant la Révolution française, mais la terreur comme moyen de gouvernement, hein, la guillotine comme moyen de gouvernement, la terreur sur une échelle beaucoup plus large, la Vendée. Hein. Souvenons-nous que dès 1794, le fameux Babeuf avait publié une forte brochure sur les massacres de Vendée, où il avait déjà, à l'époque, inventé le terme populicide. Le terme génocide a été inventé beaucoup plus tardivement, en 1944, par le juriste polonais Lemkin. Mais dès 1794, Babeuf, écrivant un livre sur les massacres de Vendée, avait inventé le mot populicide pour désigner l'extermination complète d'une population considérée comme ennemie. Donc, voilà encore un élément qui intervient. Donc, la terreur, bien entendu. La préfiguration, parce qu'il ne faut tout de même pas assimiler les Jacobins au parti bolchévique, mais à travers les Jacobins, la préfiguration de ces groupes extrémistes et activistes qui visent à s'emparer du pouvoir pour imposer leur projet. Donc, il y a déjà pas mal d'éléments qui interviennent, mais qui sont encore... Alors, on verra apparaître un petit peu plus tard des éléments utopistes, avec Fourier, par exemple, qui est à la sortie de la Révolution française. Bon, mais ce sont à l'époque encore, je dirais, des éléments épars. Et même avec Marx, ces éléments sont encore relativement épars, même si Marx rajoute à l'édifice, par exemple, une dimension scientiste, qui est d'ailleurs bien exposée dans l'ouvrage Les logiques totalitaires en Europe par notre collègue Jacques De Witte, philosophe belge, mais qui vit à Berlin et qui a fait un très grand chapitre sur Marx, vu par Kolakowski. Kolakowski, un des principaux penseurs polonais de la période communiste et qui a rompu avec le communisme, et pour montrer comment, effectivement, Marx va ajouter une touche très importante en éliminant de sa pensée, je dirais, tout ce qu'on pourrait appeler les couches intermédiaires et toutes les strates intermédiaires, qui sont précisément celles de la démocratie, et en inventant une espèce de philosophie de l'histoire et de la société qui se veut une science. Or, on sait très bien que les interprétations de Marx, quoi qu'en pense peut-être M. Attali, à travers sa récente biographie de Marx, ces interprétations ont été très largement contredites par la réalité.
Alors, nous allons revenir sur Marx et notamment la filiation Marx-Lénine-Staline. Je voudrais tout de même rester sur la Révolution, puisque le texte de Patrice Guenifé est vraiment très, très bon sur la question révolutionnaire. Très éclairé. Il y a la question de date. Généralement, on situe la Terreur en 1793 et Guenifé commence son intervention en redonnant à 1789 une place qu'on n'avait pas l'habitude de voir.
Oui, tout à fait. Alors, Guenifé, ce qui est... Patrice Guenifé, qui est un des élèves, un des rares, entre guillemets, élèves de François Furet, et qui malheureusement, à mon avis, n'a pas suffisamment de visibilité dans ce pays. L'école Furet est encore tenue
à l'écart
et marginalisée, mais Patrice Guenifé a publié un livre extrêmement important sur la terreur sous la Révolution française. Il montre bien justement ce double aspect de la terreur. D'une part, une espèce de terreur spontanée et de masse qui intervient dans beaucoup de révolutions et qu'on voit apparaître, alors là, dès la prise de la Bastille, carrément.
C'est la violence populaire.
C'est une violence populaire, c'est une violence émeutière, où on massacre des gens qui sont considérés comme des symboles de la vieille société, de l'oppression, etc., à juste titre ou à mauvais titre, peu importe. Mais c'est une violence qui ne vise pas d'objectifs politiques précis. Ça, c'est important. C'est une violence qui se déchaîne, qui peut être extrêmement violente. Les massacres de septembre, etc. Bon, ce sont des espèces de poussées comme ça de violence, de terreur, qui vont évidemment beaucoup peser sur la société parce que ça marque énormément les esprits. Mais en même temps, ça n'a pas le caractère prémédité, très fortement prémédité, de la deuxième type de terreur, qui sera précisément à partir de 93 tout à fait net, qui est cette terreur mise en œuvre par des groupes restreints, très activistes, et qui s'en servent comme un moyen de s'emparer du pouvoir et un moyen de conserver le pouvoir, bien sûr. Et ça, c'est une préfiguration de ce que nous verrons, par exemple, dans la révolution bolchevique.
Alors, c'est très important, parce que quelques pages plus loin, il dit que ce n'est pas la guerre qui crée la terreur, mais la terreur qui crée la guerre.
Absolument. On va voir exactement la même chose, d'ailleurs, dans la révolution russe, et surtout dans l'espèce d'opposition entre révolution russe et révolution bolchevique. La révolution russe, elle s'étend du début de mars 1917 jusqu'au 7 novembre, où Lénine prend le pouvoir. Bon, dans un premier temps, en dehors d'environ 1500 morts, des premières émeutes qui font tomber le tsar, et où là, il y a pas mal de casse parce qu'il y a encore la police armée, il y a les Cosaques qu'on envoie réprimer les émeutes, etc. Donc là, il y a des morts. Mais ensuite, ça va être une phase relativement très calme, relativement calme, pendant des mois. Simplement, ça bouillonne. Et quand ça bouillonne, il y a deux solutions. Soit on continue à jeter de l'huile sur le feu pour que ça flambe carrément, soit on essaye de calmer le jeu et de pouvoir passer à une étape suivante. Bon, et c'est donc tout ce problème. Or, la terreur va servir aux groupes extrémistes à créer un climat qui est justement ce fameux climat de guerre civile qui va permettre de mettre en œuvre des solutions extrêmement brutales qu'un certain nombre de gens ne sont pas décidés à utiliser. C'est toute la question. Tout le problème est d'amener le débat politique sur le terrain de la violence, parce que tant qu'on se limite à la non-violence, il y a des gens qui ont peu de chances de parvenir à leur fin. Donc ils ont tout intérêt à créer ce climat de violence et qui va aboutir rapidement à un climat de guerre civile qu'on voit très bien d'ailleurs dans la révolution bolchevique. C'est-à-dire que bien avant même sa prise de pouvoir, Lénine ne rêve que de guerre civile. Et il considère que, de toute manière, on ne pourra pas faire une révolution sérieuse si on n'organise pas la guerre civile, de créer une véritable situation de guerre civile, ce qu'il va arriver à faire d'ailleurs.
Alors, Guenifé a un avis bien évidemment très nuancé. Il ne s'agit pas de faire de la Révolution française un mouvement totalitaire pur. D'ailleurs, oui. Il explique bien qu'il y a cette notion de parti qui est absolument inexistante.
Absolument. Donc c'est pour ça que dans la comparaison entre Jacobins et Bolcheviques, il faut être très prudent. Le club des Jacobins n'est pas encore un parti. Il n'a pas d'idéologie très constituée. D'ailleurs, Guenifé montre très bien que justement, c'est pour ça qu'il est obligé de mettre en œuvre la terreur. C'est parce que, bon, on ne sait pas très bien vendre. Ouais. On ne sait pas très bien quoi vendre et sur quoi on pourrait... Qu'est-ce qui serait porteur donc, finalement, on est bien obligé de mettre en œuvre la terreur pour faire taire les opposants. Hein. Donc, on voit très bien que dès ce moment-là, il y a ces éléments proto-totalitaires. Bon, le problème, c'est que entre la révolution de 1789 et 1917, il va quand même se dérouler plus d'un siècle, au cours duquel d'ailleurs, et ça François Furet l'avait très bien montré, au cours duquel l'idée révolutionnaire s'est progressivement désagrégée. C'est-à-dire qu'à la veille de 1914, l'idée révolutionnaire qui était portée par les mouvements socialistes était très fortement affadie, tout simplement parce qu'elle était extraordinairement contaminée par l'idée démocratique et par les processus électoraux. Tous les partis socialistes étaient en train de s'intégrer dans le processus électoral, donc dans le processus démocratique, donc dans l'abandon d'une idée d'une révolution guerre civile. Et évidemment, 1917 va casser tout ça et va remettre à l'ordre du jour l'idée révolution guerre civile, et avec en plus, malheureusement, un succès. Alors évidemment, à partir du moment où ça a réussi, c'est une formidable poussée, une formidable aspiration d'air vers ce type de modèle.
Alors, il y a un élément très important, hein, c'est la guerre. Les éditions Kalman-Lévy viennent de rééditer l'ouvrage de Georges Mossé, Les racines intellectuelles du Troisième Reich, la crise de l'idéologie allemande. Georges Mossé a écrit un autre ouvrage qui crée un lien justement entre révolution, Première Guerre mondiale et régime totalitaire. Absolument. C'est une idée qui est aussi très présente dans votre ouvrage.
L'idée de Mossé, c'est que la guerre de 14, qui, comme chacun sait, a été extrêmement violente,
oui.
Non pas que les gens aient voulu se massacrer forcément, mais ayant mis au point des armements extrêmement destructeurs,
oui.
Ils se sont aperçus au bout d'un certain temps que ça faisait énormément de dégâts. Bon, alors, mais une fois que c'était lancé, on ne pouvait plus arrêter la machine. Bien. Donc, une guerre extrêmement meurtrière, comme on n'en avait jamais vu. Bon.
Brutalisation des sociétés européennes.
Brutalisation des sociétés du fait de la guerre. Et cette brutalisation menant à une brutalisation du champ politique lui-même qui se retrouverait dans le phénomène totalitaire. Alors là, il y a de grands débats qui sont engagés parce que Mossé a incontestablement raison sur une partie du problème, c'est-à-dire que la guerre a incontestablement brutalisé les mœurs des sociétés, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas mésestimer une autre dimension du problème qui est que certaines de ces sociétés étaient déjà très peu brutalisante, si on peut s'exprimer comme ça, avant 1914, c'est-à-dire c'était déjà des sociétés relativement policées, où la brutalisation n'a pas vraiment pu casser ce vernis de civilisation qui existait jusque-là. C'est l'exemple de la France et de l'Angleterre, en particulier la France, qui est quand même l'un des principaux protagonistes de la guerre. Et or, la France est justement un des pays où on ne verra pratiquement pas de mouvement fasciste entre les deux guerres. On verra des mouvements d'extrême droite, des mouvements très conservateurs, etc., nationalistes, tout ce qu'on veut, mais pas de réel mouvement fasciste au sens où on l'entend en Allemagne nazie ou en Italie fasciste. Par contre, si on reprend l'autre exemple qui est la Russie, incontestablement, la Russie a été en partie brutalisée par la guerre de 14-17, puisque pour la Russie, elle s'arrêtait en 17 pratiquement. Mais par contre, il faut savoir que la société russe était déjà extraordinairement brutale avant la guerre. Et il faut rappeler qu'il y avait eu une première poussée révolutionnaire en 1905-1906 avec une répression très brutale, des milliers de personnes condamnées, pendues, des milliers d'assassinats politiques. Il ne faut pas oublier que des années 1890 jusque vers 1914, les mouvements révolutionnaires, en particulier les socialistes révolutionnaires et les anarchistes, massacraient allègrement tous les fonctionnaires, etc. Donc, il y avait déjà en Russie, malheureusement pour la Russie, avant 1914, une brutalisation forte de la société. Donc voilà, d'un côté, Mossé a tout à fait raison d'avoir mis le projecteur sur ce phénomène nouveau qui date de 14-18, mais il ne faut pas oublier que certaines sociétés vivaient déjà dans une brutalisation très forte avant 14 et que par contre, des sociétés qui avaient déjà commencer à abandonner sérieusement la brutalisation, la société anglaise et la société française, par exemple, sont sortis relativement indemnes de la guerre de 14.
Stéphane Courtois, nous nous retrouvons dans un instant. Je reçois Stéphane Courtois pour son ouvrage Les logiques totalitaires en Europe. Il a dirigé un ouvrage, c'est la publication des actes du colloque qui étudie donc ces logiques totalitaires. Cet ouvrage est paru chez Fayard. Alors avançons dans le temps, quittons la Révolution française, mais restons sur cette logique idéologique. Il y a une étude intéressante d'un philosophe que vous avez cité, le philosophe belge Jacques De Witt, qui est consacré à la filiation Marx-Lénine-Staline. Alors c'est une filiation qui a le plus souvent été très contestée, et vous le dites d'ailleurs dans la revue Histoire et Liberté, le numéro 27, il est aisé de répondre que Marx n'a personnellement ordonné d'assassiner personne, ce qui est parfaitement exact. Alors comment trouver chez Marx la logique totalitaire ?
Ah oui, alors là, on est vraiment dans des questions compliquées qui, à mon avis, sont loin d'être résolues. Bon, il n'y a pas de doute que Marx, effectivement, d'abord, n'ayant jamais été au pouvoir, il n'a jamais été en son pouvoir de dire « il faudra fusiller Monsieur Truc ou Madame Machin ». Bon, ça, c'est clair et personne ne peut le lui retirer. Ceci dit, il y a incontestablement chez Marx des éléments qui vont pousser, je dirais, un homme comme Lénine, par exemple, à aller plus loin et à passer à l'acte. En fait, Marx établit une espèce de soubassement sans lequel Lénine n'existerait pas et sans lequel la révolution bolchévique n'existerait pas. Alors pourquoi ? Il suffit de reprendre tout simplement ce texte fameux et fondamental, et ça n'est pas parce qu'il est assez court qu'il n'est pas fondamental, c'est le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, mais enfin surtout de Marx, de 1848, où il y a quand même là un certain nombre de choses fondamentales qui sont dites. C'est d'abord l'idée que l'histoire est commandée par une lutte des classes radicales, et entre deux grandes classes, la bourgeoisie et le prolétariat, et que ça se terminera par l'extermination d'une de ces deux classes. Et ça, c'est dès la première page du manifeste, c'est écrit. C'est écrit que cette histoire se terminera par l'extermination d'une de ces deux classes. C'est donc une vision déjà extraordinairement violente de l'histoire. Et en tout cas, une version qui ne vise pas à une espèce de pacification. C'est plutôt une vision de l'histoire qui est une vision qui prend en compte cette brutalité et qui dit finalement, et c'est d'ailleurs là, ça c'est plutôt la dernière phrase du manifeste, seule la violence va permettre de résoudre les questions.
Une des caractéristiques du totalitarisme, c'est ce manichéisme.
Absolument, donc c'est une vision en noir et blanc.
Qu'il soit nazi ou communiste.
Oui, oui, c'est avec au cœur la figure de l'ennemi, très importante, la figure de l'ennemi, il faut arriver à désigner un ennemi. Et d'ailleurs, quand on n'a pas assez désigné d'ennemis, on s'en invente un. Vous trouverez dans cet ouvrage les logiques totalitaires en Europe, un chapitre de notre collègue Matar Bonucci sur la campagne antisémite de Mussolini en 1938, où Mussolini n'a rien trouvé de mieux et de plus intelligent pour relancer la dynamique révolutionnaire du fascisme, parce qu'il trouve que les Italiens sont vraiment trop avachis, il faut les réveiller, on va lancer une campagne antisémite, on va désigner un ennemi, et on va pouvoir taper sur l'ennemi, etc. Donc la figure de l'ennemi, c'est très très important. Alors, tout le problème, c'est qu'en démocratie aussi, les gens peuvent être ennemis. Simplement, ce sont des ennemis qui acceptent de faire une guerre avec des armistices, avec des paix qui peuvent durer longtemps, entre les partis, etc. Le problème, c'est que dans le cadre du totalitarisme et de la guerre civile, on est dans un cadre tout autre. La guerre civile n'a rien à voir avec les guerres des partis en démocratie, ni même avec les guerres nationales. En guerre civile, il n'y a qu'une solution, c'est l'extermination de l'ennemi. Donc il n'est pas question de paix, il n'est pas question d'armistice, il n'est pas question d'accorder le pardon, etc. C'est l'extermination de l'ennemi, et ça c'est très important. Or, si vous prenez le manifeste communiste, Marx désigne très clairement un ennemi, qui est le bourgeois. Tout simplement, le bourgeois. Et d'ailleurs, François Furet, dans son Passé d'une illusion, les 100 premières pages du Passé d'une illusion, c'est véritablement revenir sur la figure du bourgeois. Et pourquoi et comment le bourgeois est stigmatisé comme véritablement l'élément perturbateur qui fait qu'on ne peut pas arriver à une société harmonieuse, et l'élément qui doit être détruit. Et d'ailleurs, c'est un mot qui va très vite venir dans la bouche des révolutionnaires en Russie. Le bourgeois, il y a d'ailleurs très peu de bourgeois en Russie. Et toute personne qui présente un aspect un petit peu policé, etc., c'est un bourgeois. Et d'ailleurs, on retrouvera ça chez Pol Pot. hein, puisque dès la prise de Phnom Penh, toute personne qui portera des lunettes, qui aura un stylo ou un attaché-case est considérée comme un bourgeois et liquidée aussitôt. Donc ça, je crois que c'est très important de souligner chez Marx cette désignation de la figure de l'ennemi très tôt, dès 1848, et de manière extrêmement violente et extrêmement manichéenne, les bons d'un côté, le prolétariat, et les mauvais de l'autre, les bourgeois, les capitalistes. Bon, donc là, on a déjà une base très importante qui mène à une vision radicale de l'histoire, de la Révolution, à l'obligation de passer par une guerre civile. Et on a les textes de Marx au moment de la Commune de Paris, quand même, qui sont très clairs. Et c'est d'ailleurs, avec la Révolution française, l'expérience de la Commune de Paris et les conclusions qu'en tire Marx, c'est-à-dire les communards ont été vraiment des pusillanimes, il fallait fusiller beaucoup plus tôt, il fallait être beaucoup plus violent. Ça, ce sont les deux grandes leçons que Lénine va retenir. Simplement, Lénine va lui ajouter, alors il y a chez Marx en plus cette dimension de légitimation de toute cette pensée et de toute cette action par cette espèce de scientisme marxiste, c'est-à-dire nous détenons la science de l'histoire, nous détenons la science de la société, hein, donc voilà, c'est nous qui avons la vérité, donc si vous voulez bien, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont dans l'erreur, hein, et c'est cette vérité qui légitime notre pensée, notre action. Lénine, lui, va y ajouter un élément supplémentaire qui est très important.
C'est la notion de parti ?
C'est la notion de parti de révolutionnaire professionnel. Ouais, ouais. Parce que la notion de parti existe déjà en 1917, et même en 1902, quand il écrit « Que faire ?», il y a déjà des quantités de partis, que ce soit en France, en Allemagne, une social-démocratie puissante, etc., en Angleterre. Bon. Mais Lénine, lui, véritablement, en s'appuyant d'ailleurs sur un exemple russe, qui est l'exemple du fameux Serge Netchaïev, qui était le modèle du révolutionnaire dans le fameux roman de Dostoïevski, Les Possédés, qui est vraiment quelque chose d'extraordinairement prémonitoire. Alors, Lénine, en s'appuyant sur cet exemple russe, va créer d'abord l'idée, puis ensuite la réalité du parti de révolutionnaires professionnels, c'est-à-dire un parti formé de ce qu'il appelle lui-même des agents. Des agents, c'est des gens qui sont agis, des agents qui sont agis par un comité secret, dirigé par qui ? Ben évidemment par Lénine. Hein, et là, on a quelque chose de tout à fait nouveau, parce que là, on a l'invention d'un phénomène politique qui est hors société. Ce groupe des révolutionnaires professionnels, il est tout à fait hors société. Hein, il ne s'intéresse pas à la société, il n'a pas de racines dans la société. S'il en a, il les coupe, il s'en débarrasse. Et en fait, il fonctionne de manière tout à fait autonome, avec ses propres valeurs, son propre monde. Et c'est précisément ce parti de révolutionnaires professionnels qui est d'abord un petit noyau. Hein, c'est un petit noyau autour du leader charismatique qu'est Lénine. Mais le problème, c'est que ce petit noyau va d'un seul coup se retrouver dans une situation très favorable qui va être la Révolution russe de 1917. Et là, le génie révolutionnaire de Lénine, comme le génie révolutionnaire de Robespierre, bon, là, cet homme-là va véritablement faire basculer toute la situation.
Alors, il y a un texte très intéressant dans cet ouvrage, hein, « Les logiques totalitaires en Europe », paru aux éditions du Rocher. Nous sommes dans la logique de parti, cette fois, cette dernière logique que vous donnez. C'est un texte de Pavel Chinsky, enseignant au lycée français de Moscou, et doctorant qui présente la constitution du parti à l'ère stalinienne, mais dans les premières années. Ouais. Et finalement, il crée un lien entre Lénine et Staline.
Tout à fait. Ah oui, c'est un texte tout à fait passionnant et très neuf. Et là, on voit que les archives commencent vraiment à apporter des choses très importantes. Pavel Chinsky montre comment Staline s'est emparé du parti bolchevique dès 1924, 25, 26. Bon, il faut rappeler que Staline avait été désigné par Lénine comme secrétaire général du parti en 1922. À la veille du moment, hein, en décembre 22 et en janvier 23, lors de ses derniers moments de lucidité, Lénine a fait une petite notice en disant « Je crois qu'il faudrait dégager Staline du poste de secrétaire général parce qu'il est peut-être un peu trop brutal. » Bon, c'est assez drôle hein, pour quelqu'un qui voulait justement de la brutalité.
Oui, alors c'est très important parce que en fait, ce sont les derniers mots de votre intervention. Oui. Vous terminez votre étude sur Lénine en évoquant le fameux testament et les remords à propos de Staline, comme quoi c'est un successeur trop dur. Or, Or, vous dites qu'il n'en est rien, il se situe dans une continuité.
Ah, il se situe dans une totale continuité. D'ailleurs, si Lénine l'a désigné comme secrétaire général du parti, c'est qu'il considérait au début de 1922 que c'était son bras droit le plus fiable et vraiment un dur, quelqu'un qui n'allait pas mollir. Et d'ailleurs, vous le savez, on l'avait déjà dit dans le livre noir du communisme, régulièrement, Lénine envoyait des télégrammes en disant « Trouvez des gens plus durs, etc. Il faut que ce soit plus dur. Bon, il faut que la guerre civile soit menée radicalement. » Bien. Donc, Staline a fait le travail et il a été, il faut le rappeler, il a été un des principaux bras droits, si on peut avoir plusieurs bras droits, bien sûr, mais un des principaux bras droits de Lénine pendant toutes ces années 17-22. Simplement, Staline, en 1923, au moment où Lénine est hors service, puisqu'il a une attaque cérébrale, il ne mourra qu'en janvier 24, Staline, lui, a parfaitement compris quelle est la logique du système ? Et que si le système veut se maintenir, et se maintenir au pouvoir, et maintenir ses projets, il n'y a pas 36 solutions. C'est là que, avec une espèce de rationalité tout à fait étonnante, Staline va reprendre ce qu'a fait Lénine, mais il va le systématiser, il va le généraliser, hein, parce que si on regarde bien, tout ce qu'a fait Staline ensuite, quasiment tout avait déjà été expérimenté par Lénine, sauf peut-être la grande purge du parti, et encore, dès 1921, Lénine avait interdit les fractions, etc. Bon. Donc, ça c'est assez impressionnant, et en même temps c'est assez logique, dans la mesure où Staline est un pur produit du bolchevisme, il a adhéré assez tôt au parti, Staline n'a jamais travaillé, il a toujours été un révolutionnaire professionnel, sous les ordres de Lénine, avec parfois de grands succès, puisque en particulier, il était chargé d'organiser des hold-up pour financer la clandestinité, et que, à la suite d'un fameux hold-up à Tiflis qui avait rapporté beaucoup d'argent, Lénine ne cessait de vanter les mérites de ce merveilleux géorgien qu'il ne connaissait pas encore, mais dont on lui avait dit que c'était lui l'organisateur de ces hold-up. Donc, il n'y a pas de doute qu'il y avait une grande proximité entre les deux hommes, qui n'est pas du tout une proximité amicale. D'ailleurs, Lénine n'a pas d'amis. Lénine est un professionnel de la Révolution et bon, il ne pense qu'à ça. Donc, toute personne qui peut lui rendre de grands services dans l'avancée de la Révolution, c'est bien. Si cette personne ne fait plus l'affaire, on la jette, c'est pas le problème. Hein. Donc, il y a une continuité et là, les archives parlent très fortement. Enfin, je veux dire, et en particulier, il y a une vieille légende qui traîne dans toute l'historiographie, légende qui a été propulsé par Trotsky. Hein. Les fameuses phrases de Trotsky sur Staline, la plus grande médiocrité, la plus brillante médiocrité du parti, etc., voulant faire croire que Staline était une espèce de petit apparatchik qui s'était faufilé dans le dos des géants de la Révolution d'octobre. Enfin, c'est une vision complètement narcissique de M. Trotsky. Les archives nous montrent tout à fait autre chose.
Je reçois Stéphane Courtois, historien, directeur de recherche au CNRS, qui a dirigé « Les logiques totalitaires en Europe » paru aux éditions du Rocher. Nous nous retrouvons après cette dernière pause.
Les académiciens de l'Institut de France s'expriment au micro de Canal Académie. Retrouvez le témoignage de François Jacob de l'Académie française dans notre médiathèque en libre écoute et libre téléchargement. François Jacob évoque sa carrière de biologiste, prix Nobel de médecine, ainsi que son entrée à l'Académie française. Un témoignage exclusif sur Canal Académie.
Canal Académie reçoit Stéphane Courtois qui a dirigé le livre « Les logiques totalitaires en Europe ». Il s'agit du quatrième volet d'un ensemble de quatre colloques sur les origines, sur l'apogée et l'héritage des totalitarismes. Là, il s'agit du quatrième volet « Les logiques totalitaires en Europe », donc un volet beaucoup plus thématique. Alors, nous avons vu cette filiation entre Marx, Lénine et Staline, mais je voudrais tout de même, restez sur Lénine, car au fond, vous le dites, c'est lui qui invente un prototype.
Oui, c'est un peu la grande question sur le plan de l'historiographie. On a quand même un cas merveilleux qui est le cas d'Hannah Arendt. Hannah Arendt nous publie dès 1951 trois forts volumes sur les origines du totalitarisme, l'antisémitisme, l'impérialisme, etc. Mais on a beau lire ces trois volumes qui ont été republiés chez Gallimard en collection très accessible et très pratique et remarquable, bon, et ça fait 800 ou 900 pages. On a beau tourner ces 900 pages dans tous les sens, le nom de Lénine est quasiment absent. Et surtout, on est censé apprendre les origines du totalitarisme, mais à aucun moment on ne nous dit, et Hannah Arendt ne nous dit, eh bien voilà, le totalitarisme est né tel jour, telle heure, à tel endroit. Alors, ça, c'est quand même un problème, parce que tout phénomène historique naît tel jour, telle heure, à tel endroit. Comme, bon, la Révolution française, c'est... alors, on peut choisir différentes dates, on peut dire c'est la réunion des États généraux, on peut dire c'est le refus du tiers-État de voter par ordre, on peut dire c'est le 14 juillet, enfin bon, bref, mais on peut donner une date. Tandis que là, Hannah Arendt, alors bien sûr, pour le nazisme, pas de problème, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, bon, pour le fascisme, de toute manière, Hannah Arendt considère que le fascisme n'est pas un totalitarisme, donc le problème est évacué. Mais pour le communisme, elle nous parle vaguement d'une espèce de coup d'État que Staline aurait fait en 1929, mais tout ça est dans un flou artistique complet. Et finalement, eh bien, on ressort de là, on a appris beaucoup de choses, mais pas où, quand et comment était né le phénomène. Donc je crois que maintenant, il faut passer à une phase un petit peu plus précise. Et effectivement, je tiens pour une thèse qui est ma thèse, je la défends donc, qui est que le totalitarisme a été tout simplement inventé par un monsieur qui s'appelle Vladimir Ilitch Ulyanov, plus connu sous le pseudonyme de Lénine, et que l'invention de ce phénomène s'est étalée entre 1902, le fameux que faire dont nous parlions tout à l'heure, hein, 1903, le deuxième congrès de la social-démocratie russe où Lénine va véritablement commencer à battre ses cartes et créer sa propre fraction, les fameux bolcheviks. Et donc cette phase qui commence en 1902, qui est une phase d'élaboration d'abord, d'élaboration intellectuelle et d'élaboration au niveau de la création d'un petit noyau dont je parlais autour du leader charismatique. Cette phase va aller donc de 1902 au début de 1917. Il faut rappeler qu'en janvier 1917, Lénine, dans une déclaration publique, dit « Nous, les vieux, il est probable que nous ne verrons jamais la révolution ». Bon, évidemment, deux mois plus tard, poum, c'est parti. Donc là aussi, c'est assez drôle sur les capacités visionnaires des individus. Bon, mais donc cette phase 1902, février 1917, c'est une phase à la fois de conception intellectuelle du modèle et de début d'élaboration d'un noyau. Je ne dirais pas d'un noyau totalitaire, d'un noyau à vocation totalitaire constitué autour d'un leader charismatique qui est Lénine. Bon. Arrive là une situation tout à fait nouvelle, la révolution russe, opportunité extraordinaire. En quelques mois, hein, du mois de mars, donc, puisque la fameuse révolution dite de février, dans notre calendrier, elle est du 7 mars. Donc du 7 mars jusqu'au 7 novembre 1917, phase de la révolution russe et non pas de la révolution bolchevique, dans cette phase, ce petit noyau, qui compte peut-être quelques 10 000 individus à tout casser, j'ai envie de dire, au grand maximum, va se transformer en mouvement de masse. C'est-à-dire qu'à la veille de la prise de pouvoir, les bolcheviks, ils ont réussi à enrégimenter près de 200 000 personnes, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Et en plus, 200 000 personnes dont la plupart sont armées, puisque dans la situation de l'époque, les armes circulent de partout et donc ce petit noyau s'est transformé en mouvement de masse et a réussi à créer son armée privée, la garde rouge. Ça fait beaucoup, ça fait déjà beaucoup et on se rapproche déjà. Donc là, on peut parler d'un mouvement totalitaire, incontestablement, avec en particulier des éléments qu'avait très bien analysé Hannah Arendt, des éléments déclassés, hein, ce qu'elle appelle la populace. Quand elle parle de la populace, elle n'en parle pas sur un ton péjoratif, elle en parle sur un ton, je dirais presque sociologique, les éléments déclassés. Or, une des grandes masses de manœuvre des bolcheviks à Petrograd en 1917, ça va être précisément ces éléments déclassés, c'est-à-dire une partie des ouvriers qui sont, et une grande partie de la garnison, qui sont en fait des paysans, qui viennent d'arriver à la ville depuis peu de temps, soit comme soldats de garnison, soit comme ouvriers, parce que les usines d'armement ont fait appel à un personnel beaucoup plus nombreux. Hein. Ce sont donc des éléments de la campagne qui n'ont pas du tout la culture de la ville, ni même de la culture ouvrière, et sur laquelle les bolcheviks vont avoir un moyen de pression formidable. Et puis ensuite, on va passer très vite, dès le 7 novembre, prise de pouvoir par les bolcheviks, eh bien, on passe à la création, qui est une improvisation, mais à la création du régime totalitaire cette fois-ci. Et d'un régime qui est créé le 7 novembre et qui s'écroulera qu'en 1991 quand même.
Oui, parce que vous expliquez qu'une fois arrivé au pouvoir, eh bien, il rentre dans une logique conservatrice.
Ben oui, parce que le premier objectif d'un mouvement totalitaire, c'est de s'emparer du pouvoir. Bon. Mais une fois qu'il est au pouvoir, il a deux objectifs principaux. Premièrement, s'y maintenir par tous les moyens. D'où guerre civile.
Logique de terreur.
Logique de guerre civile, qui justifie ensuite la logique de terreur, qui justifie ensuite la logique d'extermination des ennemis. Très bien. Et puis ensuite, le deuxième volet, la mise en œuvre du projet. Parce que n'oublions jamais que ces leaders totalitaires charismatiques, ils sont porteurs d'un projet. Ils ont dans leur tête une vision précise de la société qu'ils veulent mettre en place. Alors, même si elle est tout à fait farfelue, c'est très important.
On tombe dans ce que l'expression est belle, si je puis dire, c'est la rationalité de l'irrationnel.
Absolument, c'est la rationalité de l'irrationnel. Ces gens-là ont un projet, ont une vision du monde, ont un projet que nous, gens considérés comme vaguement normaux, nous considérons comme un projet irrationnel. Je veux dire, le projet de Adolf Hitler de vouloir faire une race pure, c'est un projet, une race pure aryenne, c'est un projet totalement irrationnel. Bon, au vu de nos connaissances scientifiques et même de celles qu'on avait au XXe siècle. Mais ceci dit, une fois que ce projet est acquis, hein, il est forcément acquis, à partir du moment où ce monsieur s'est emparé du pouvoir, ce projet va être mis en œuvre. À ce moment-là, ces gens-là se comportent de manière tout à fait rationnelle pour mettre en œuvre leur projet. Alors, on voit très bien dans le cas nazi, mais dans le cas communiste, c'est tout aussi clair. C'est-à-dire, l'extermination de la bourgeoisie pendant la guerre civile, l'extermination des Cosaques, hein, le pillage complet de la paysannerie qui va amener la première grande famine de 21-22 avec 5 millions de morts, qui sont très largement le fait du gouvernement bolchevique. Bon. Donc, on a là, hein, et les logiques sont à l'œuvre. Je veux dire, Lénine n'a strictement rien à faire qu'il y ait 5 millions de paysans qui meurent de faim du moment que l'armée rouge, le parti communiste et les villes sont nourris. C'est pire que ça. Hein. Dans sa fameuse note au bureau politique du 19 mars 1922, il dit mais formidable, profitons de cette famine qui met à genoux la paysannerie, profitons-en pour casser l'église, hein, au moment où les paysans ne peuvent pas défendre l'église qui est une de leurs institutions sociétales fondamentales. Hein. Et Lénine va jusqu'à dire, profitons du fait que les gens mangent de la chair humaine pour détruire l'église orthodoxe. C'est quand même... Là, les logiques sont très claires, je veux dire. Bon, la rationalité est très claire.
Une organisation
la morale,
de la famine.
Oui. La seule morale qui compte, c'est la morale du succès de la révolution, du succès du projet, du maintien au pouvoir du parti totalitaire. Le reste, c'est de la rigolade, pour parler un peu vulgairement. Et il faut bien dire que Trotsky publiera à la fin des années 30 un livre qui s'appelle « Leur morale et la nôtre », où il va reprendre très exactement tout ça en disant « Voilà ». Notre morale, c'est pas la vôtre. Hein, vous avez une espèce de morale chrétienne, hein, la personne humaine, tout ça, c'est ridicule. Nous sommes des révolutionnaires. La seule morale qui compte, c'est le service de la révolution. Et il était d'ailleurs bien placé pour le savoir, puisque en tant que patron de l'armée rouge, il avait été largement responsable et des massacres de la guerre civile et de la famine, puisque une grande partie de la famine est due au fait qu'on réquisitionne les récoltes des paysans pour nourrir l'armée rouge. Donc, dès ce moment-là, les logiques s'affrontent, sont tout à fait claires, mais on est en pleine rationalité de fonctionnement, je dirais. Et ça, je crois que c'est un des apports d'Ernst Nolte, qui, dès 1986, a dit très clairement, nous ne pouvons plus... Alors, il parlait, lui, du nazisme, mais il a dit, nous ne pouvons plus analyser le nazisme comme un phénomène de folie, de paranoïa, etc. C'est pas sérieux. Il faut analyser le nazisme en fonction de sa rationalité de fonctionnement avec des gens qui ont des projets et qui mettent en œuvre ces projets de manière extraordinairement rationnelle. Et de ce point de vue-là, quoi de plus rationnel, effectivement, que la solution finale ? Du point de vue nazi, il n'y a rien de plus rationnel. Ah, ça, c'est certain. Hein, et de la même manière, et il n'y a pas que la solution finale. Je veux dire, l'extermination d'environ 100 000 Allemands avant même que la solution finale soit engagée. Hein, depuis septembre-octobre 39 jusqu'au printemps 41, il y a quand même 100 000 Allemands considérés comme dégénérés, ne pouvant pas faire, tout en étant parfaitement allemands, mais ne pouvant pas faire partie de la race parce qu'ils sont handicapés, ils sont drogués, ils sont des vieillards fatigués, on s'en débarrasse, on va euthanasier 100 000 personnes. Hein, ou massacrés ou assassinés par les gaz 100 000 personnes, qui sont des Allemands, j'allais dire, de bonne souche, aryenne, mais néanmoins, qui font désordre dans le profil de la race. Donc, de manière très rationnelle, on les extermine. Alors, donc vous le voyez, on est... Et du côté communiste, on va voir exactement les mêmes choses.
Eh bien, Stéphane Courtois, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. C'est sur ces points communs entre la logique totalitaire nazie et la logique totalitaire communiste que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez dirigé le travail « Les logiques totalitaires en Europe », fruit des actes du colloque du même titre. « Les logiques totalitaires en Europe » paru aux éditions du Rocher. J'ai signalé également le livre de Georges Mosset, la réédition « Les racines intellectuelle du Troisième Reich, la crise de l'idéologie allemande chez Kalman Lévy, la revue Histoire et Liberté, le numéro 27, dans laquelle vous avez été interviewé, et enfin aux éditions Alvic Édition, le pacte avec le diable de Sébastien Hafner, les relations germano-soviétiques 1917-1941, avec une préface d'Alfred Grosser. Merci beaucoup Stéphane Courtois.
C'est moi.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.